être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils.
Bonjour Douvrin, bonjour chère auditrice et chers auditeurs du Nord-Pas-de-Calais, bonjour Coco.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bah, très bien, écoute.
Tu vas nous faire une rubrique beauté?
Oui.
Spécial automne.
Voilà, c'est ça.
Donc que du bien. Nous accueillons Stéphane.
Bonjour.
Bonjour, alors qui est une fille, hein.
Oui.
Pas un garçon, hein.
Stéphane.
Ouais, Stéphane. Qui viendra nous parler en fait de l'entrepreneuriat, on va dire entre guillemets, féminin. Donc, bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son actualité, ses petites manies et son impertinence, d'hier à demain, de l'amour à l'humour, de récits, de sujets, d'invités, d'artistes. Eh bien, on commence, c'est parti, notre petite rubrique actualité femme, c'est parti.
Allez.
Actualité féminine. Première actualité, MeToo invente un kit de prélèvement pour les personnes ayant subi un viol. Et ça fait polémique. Donc même s'il n'est pas encore commercialisé, ce kit créé dans le but d'effectuer ses prélèvements soi-même après un viol est la cible de nombreuses critiques aux États-Unis. La sortie de MeToo n'est même pas encore annoncée que déjà c'est très controversé aux États-Unis et pour cause. Le concept de ce kit a été créé dans le but d'effectuer des prélèvements soi-même après un viol. Donc les Américains, et pas les Américaines je précise, le critiquent très vivement. Celui-ci permet entre autres de repousser, voire d'éviter le passage à l'hôpital. Conçu avec des biologistes, le kit contient des accessoires de prélèvement ADN et des sachets pour conserver les poils ou les cheveux. Donc MeToo a été imaginé par Madison Campbell, une militante américaine qui a elle-même été victime d'une agression sexuelle et qui souhaitait offrir aux autres victimes un moyen efficace de collecter des preuves à l'encontre de leur agresseur. Mais le souci, c'est on n'est pas médecin et faut bien conserver déjà les preuves et puis l'ADN, parce que je pense qu'il y a des règles à bien respecter.
Tout à fait.
Enfin bon, c'est une affaire à suivre. Centième féminicide. Une femme de 39 ans poignardée par son conjoint à Montauban. Ce vendredi 20 septembre à Montauban, une femme âgée de 39 ans a été poignardée à plusieurs reprises dans la nuit par son compagnon. La liste des féminicides s'allonge dramatiquement. Ce vendredi 20 septembre, une femme de 39 ans originaire donc de Montauban, je me répète, est devenue la 108e femme morte sous les coups de son compagnon. La victime a été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi et habitait le quartier de Fontneuve, au nord de la cité d'Indre et à proximité d'une voie ferrée. Elle a été poignardée à plusieurs reprises par son compagnon qui a été interpellé par la police de Montauban. L'homme serait actuellement en cours d'audition. Les forces de l'ordre sont également en train de faire les constatations d'usage pour comprendre le scénario de ce qui semble être le premier féminicide de l'année 2019 dans le département. Une ado filmée en train d'être tabassée, la vidéo diffusée par ses agresseuses. À Toulouse, une jeune fille de 14 ans a été passée à tabac par un groupe de collégiennes. Celles-ci ont filmé la scène et diffusé la vidéo sur Twitter et Snapchat. Comme quoi, faut bien veiller sur ses enfants.
Ah oui.
Les conséquences du harcèlement scolaire peuvent parfois être tragiques. Une adolescente de 14 ans a été tabassée par un groupe de collégiennes à la sortie des cours. harcelée l'année dernière et s'est retrouvée prise au piège. Celle-ci a été rouée de coups alors qu'elle se trouvait à terre et la scène, du coup, a été filmée. Heureusement, c'est l'intervention d'une femme enceinte qui a mis fin au passage à tabac. Et le calvaire ne s'est malheureusement pas arrêté là. Pour humilier davantage leurs camarades, les bourreaux ont décidé de partager la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Un déchaînement de violence honteux. Sur la vidéo en question, les internautes pouvaient voir la victime en train de hurler et de trembler alors qu'elle recevait de nombreux coups sur le corps. Un déchaînement de violence tout simplement honteux que l'établissement scolaire a, pour sa part, cherché à minimiser. Nous avons eu le sentiment que le principal cherchait à minimiser. Il nous a quand même expliqué que les enfants s'amusaient comme ça aujourd'hui. De tels propos sont sidérants. A ajouté donc la mère de famille lors de son entretien. Toujours traumatisée par son agression, la finette de 14 ans n'est plus retournée dans son collège et sera prochainement réaffectée dans un autre établissement. Donc en fait, le problème est toujours pas réglé.
Ah oui, toujours, c'est aberrant.
Voilà, on vire les gens qui sont tabassés du collège, mais pas et les agresseuses, on va dire, ne sont pas. Voilà. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais... 109e féminicide, une femme âgée de 30 ans poignardée à mort par son mari. Entre parenthèses, j'ai l'impression que poignarder sa femme, c'est devenu à la mode. Ouais. C'est la 109e victime depuis le début de l'année 2019. À Maison Lafitte, dans les Yvelines, une femme de 30 ans était poignardée à mort par son mari. Alors que ce matin, le féminicide d'une... Alors là, je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, je me reprends. Donc le drame a eu lieu à Maison Lafitte, comme je disais, à 9h30. Les gens ont entendu une forte dispute dans le voisinage. Ils décident de prévenir les secours en attendant les heures. Lorsque les pompiers arrivent au sein du pavillon, ils découvrent une femme grièvement blessée au thorax. Si ces derniers ont tout fait pour la secourir, la jeune femme âgée de 30 ans a succombé à ses blessures et était décédée sur le lieu de l'agression dont elle était victime. Son mari, sur les lieux, a été interpellé par la police pour ensuite être rapidement placé en garde à vue et arrêté pour homicide volontaire. Une nouvelle qui a été un choc pour le voisinage dans ce quartier résidentiel. Le couple avait une fille âgée de 2 ans et ils habitaient depuis quelques mois dans la maison des beaux-parents de la victime. Dans l'entourage, il s'agissait d'un couple sans histoire et la jeune femme, aujourd'hui décédée, n'avait jamais porté plainte pour violence conjugale. Elle n'a jamais non plus signalé de tels faits autour d'elle. L'enquête devra éclaircir les circonstances de cet acte atroce. Il s'agit du 109e féminicide de l'année, le deuxième de ce vendredi 20 septembre 2019. Le nombre de féminicides ne cesse d'augmenter jour après jour. Ce fléau représente un véritable cri d'alarme concernant les violences conjugales. Et pour rappel, en 2018, il y avait 121 femmes décédées sous les coups de leurs compagnons et ex-compagnons. Les Iraniennes vont enfin pouvoir assister à un match de foot sans être arrêtées. En Iran, les femmes n'ont pas le droit d'aller au stade pour regarder un match de foot. À cause de cela, certaines se griment en hommes, tandis qu'une autre s'est immolée plus tôt en septembre après avoir été arrêtée pour ce motif. Depuis la révolution islamique en 1979, les Iraniennes sont interdites de stade de foot. Selon les responsables religieux, elles doivent être protégées de l'atmosphère masculine autour d'un stade et de la vue d'hommes à moitié dévêtus. Donc si ces dernières années, certaines ont pu contourner cette règle, d'autres sont contraintes de se déguiser en homme pour aller assister à un match de foot. Pire encore, certaines sont arrêtées si elles contreviennent à la règle. C'est gay, hein ?
C'est super.
Ouais. Patrick Bruel visé par 2 nouvelles accusations de harcèlement sexuel. On en apprend tous les jours. Le chanteur français est une nouvelle fois dans la tourmente. Visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel, 2 nouvelles femmes sont venues apporter leur témoignage auprès du parquet d'Ajaccio. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, Marlène Schiappa se grime en homme pour la bonne cause. Faut-il devenir un homme pour lever des fonds ? C'est la question sur laquelle s'est penché le collectif We Resista. Séduite par cette promotion des femmes entrepreneuses et start-upeuses, Michèle Chapia a accepté que son alter ego masculin soit dévoilé pour la bonne cause. La secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations n'aura jamais une occasion de dénoncer les inégalités de genre. C'est donc sans grand étonnement que la ministre s'est prêtée au jeu du collectif We Resista et a accepté qu'un logiciel ne la grime en homme pour dénoncer les difficultés rencontrées par les femmes pour lever des fonds afin de créer leur entreprise. Difficultés rencontrées à peu près dans tous les domaines de création d'entreprise féminine, je parle. Faut-il devenir un homme pour lever des fonds? Déjà, si l'État faisait son boulot, hein, on va peut-être pas demander des levées de fonds. Sur ce, on passe une petite musique, Angèle.
Oui, alors je vais vous passer Use the Force de Jamiroquai, sorti en 1996.
Eh bien, on écoute ça. Nous voici à notre rubrique invité. Aujourd'hui, nous allons parler des entrepreneuses ou entrepreneurs. On va voir de quoi on en discute. Puisque doit-on dire entrepreneuse ou entrepreneur ?
Bonne question.
Voilà, là est la bonne question.
Tout à fait.
Puisqu'on est toujours en train de parler des mots, au jour d'aujourd'hui, féminin et pas féminin. Donc, entrepreneur est un mot d'origine française. Donc, à savoir, c'est bien français, puis popularisé aux États-Unis, qui a fait son retour en France à l'heure de la start-up Nation ou Nation, je sais pas si on dit. On est en France, je vais pas parler en anglais, c'est start-up Nation, Nation. Enfin, vous m'avez compris. Dans ce va-et-vient linguistique, comme je viens de le dire, la société n'a pas réussi à fixer une appellation féminine à ce métier. Je pense que ça en arrange beaucoup. Une raison à cela, autour de ces deux mots, deux visions du féminisme s'affrontent. Ouais, enfin, en même temps, il suffit de trancher.
C'est ça.
Hein, c'est ouais. L'Académie française, elle est peut-être un peu là pour ça. Ouais. Enfin, bon, bref. Donc, l'entrepreneur, mais que doit-on dire ? De toute évidence, on met les pieds sur un terrain miné. Enfin, je trouve pas que ce soit si miné que ça, mais enfin bon. Certaines femmes se battent pour féminiser la dénomination de leur métier, quand d'autres préfèrent garder la forme neutre, autrement dit masculine, de crainte que le féminin dévalorise le prestige de la profession. Si, ça existe. Ouais, il y a des femmes qui sont encore dans ce contexte soumises au patriarcat. En fait, c'est bête de dire, mais effectivement, voilà. Comme professeur,
auteur,
voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Non. Le Larousse a son avis. Évidemment, hein, il fallait qu'il l'ait bien, sinon il servirait pas à grand chose. Concernant entrepreneur ou entrepreneuse, les deux termes cohabitent dans l'écosystème start-up. Donc, apparemment, on peut déjà dire les deux. Alors, à qui se référer pour trancher ? Dans ce match étymologique, le Larousse a son vainqueur. Entrepreneuse est le terme historique. Il existe depuis le XVIIe siècle et l'on le retrouve 200 ans plus tard dans le roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames. Denise s'en allait avec son argent. Lorsqu'elle rencontra Robineau, il avait appris déjà le renvoi et lui promit de retrouver l'entrepreneuse de cravate.
D'accord.
Donc voilà, ouais, ça se retrouve déjà dans les bouquins. De son côté, entrepreneur n'a de cesse de prendre de l'importance sous l'influence du continent nord-américain. Si le terme d'entrepreneur au masculin est français, les Américains et leur esprit d'entreprendre l'ont popularisé plus que les Français au cours du XXe siècle. Fidèles à leur habitude, les francophones du continent se le sont approprié et l'ont féminisé. Donc entrepreneur est né. À la fin du siècle dernier, il a fini par percer les frontières de l'Hexagone. La délégation générale à la langue française et aux langues de France a fait pour la première fois référence au mot « entrepreneur » en 1999, comme une variante québécoise. 99.
Ah oui.
Donc, c'est, voilà. Mais c'est par une variante québécoise. Depuis son usage, c'est fortement diffusé. Il correspond à une tendance de la population à trouver des appellations neutres. Selon cette spécialiste, les femmes préfèrent davantage conserver l'appellation sous sa forme neutre pour conserver le présupposé prestige de la fonction. Je vois pas le rapport, mais enfin bon, bref. Et ce type de combat ne se livre que dans le précaré réservé aux élites. Bon, là, on comprend peut-être un petit peu plus. On ne discute jamais de la neutralité du terme de coiffeuse ou caissière, par exemple. Voilà, comme sage-femme. Ce sont des métiers de femmes, à la base. Enfin, c'est ce que sûrement les élites nous diraient.
Ouais.
Alors que des start-upeuses... C'est un mot que je connaissais pas, tu vois. Start-upeuse, je viens d'apprendre un mot.
Ouais.
Qu'en pense-t-elle ? En parallèle, le féminisme s'est emparé de la féminisation des mots. Mais le mouvement n'est pas uniforme. Plusieurs tendances s'affrontent sur ce sujet. Pour certaines, accentuer la sonorité féminine avec entrepreneuse est un acte militant. Cette féminisation s'inscrit dans une histoire politique, la revendication d'une certaine forme d'égalité dans l'appropriation des termes. On pourra se questionner sur le fait que si personne ne l'utilise, le terme risque de sonner toujours un peu étrange à l'oreille, comme auditrice, féminin d'auditeur. Appellation historique qui fait néanmoins son retour en force au détriment d'auteur re. Pour aller dans ce sens, féminiser systématiquement la sonorité de toutes les professions. Ainsi, les femmes n'auraient plus à se battre pour que le mot existe.
Oui.
Le mot s'impose par idéologie. En réalité, les deux termes s'utilisent dans l'écosystème start-up. Une femme entrepreneuse fait inconsciemment penser à une femme entreprenante. Donc, on pourrait, mais ce mot était utilisé avant. Enfin, du moins, j'espère. À cause de cette connotation sexuelle, je pense que le mot entrepreneur finira par s'imposer. Peut-être.
Peut-être, oui.
Cette explication suffira-t-elle à faire disparaître entrepreneuse ? Les mots s'imposent toujours par idéologie. Que ce soit entrepreneur ou entrepreneuse, cela dira quelque chose des tendances mentales de notre société et la façon dont nous nous représentons les choses. À moins que les entrepreneurs servent de troisième voie bancale. Une féminisation qui s'entend et n'accroche pas l'oreille, mais qui oblige l'utilisation d'un second mot, la barbe. Voilà. Donc du coup, sur ce petit texte, nous accueillons Stéphane.
Bonjour.
Qui est bien une femme.
Oui.
Alors du coup Stéphane, tu es entrepreneur ou entrepreneuse ou start-up. Peuse.
Oui, ou chef d'entreprise aussi.
Ou patronne.
Aussi.
C'est bien aussi. Donc, qui es-tu ?
Alors, bah oui, effectivement, Stéphane Fourier. J'ai créé une société il y a 5 ans, Phone Expert Business, et il y a 2 ans, une seconde marque commerciale, DPO Agency. D'une part, donc spécialisée en prospection téléphonique externalisée et organisme de formation à l'efficacité commerciale au téléphone. Et d'autre part, délégué à la protection des données pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité au RGPD. Un métier qui est
très
plus masculin que féminin, mais j'y suis.
Il y a beaucoup d'hommes ?
En tant que délégué à la protection des données, il y a plus d'hommes
ouais.
que de femmes.
C'est ah vrai. Ouais, ouais. Bah, un peu partout, tu me diras, mais là, je pense que le numérique,
oui,
c'est plus...
C'est ça. Entre autres, oui.
Entre autres.
Mais je m'appelle Stéphane, donc c'est pas grave.
Donc en fait, quand les gens t'appellent, se disent « ça va, c'est un homme
». Il y a parfois des...
Et il y en a qui sont surpris ?
Ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, je mets souvent mon deuxième prénom qui peut justement après éviter les erreurs.
Et ton parcours pour arriver à cette création ?
Un parcours atypique, puisqu'à la base, j'ai fait des études d'allemand pour être professeur d'allemand.
Oui, rien à voir, quoi.
Non. Mais pendant mes études, j'ai tout appris en termes de télémarketing. Après la deuxième tentative au CAPES d'allemand où ils ont perdu les copies... j'ai trouvé un contrat en alternance pour apprendre...
Parce qu'ils ont perdu les copies
oui.
de ton CAPES.
C'est ça.
Enfin, pas que du tien, je suppose
non,
qu'il
oui,
y en a
de,
eu.
De toute la... Enfin, de, au moins de Lille.
D'accord.
Et du coup, quand c'est comme ça, il faut repasser les épreuves.
Elles sont gentilles.
Mais voilà. Je m'étais dit de toute façon que je ne repasserais pas 5 ans le CAPES, donc j'avais trouvé une autre piste, on va dire. Et j'ai fait en alternance un contrat de qualification cadre commercial franco-allemand avec la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie de Paris. Du coup, je suis repartie vraiment plus dans le commercial. On va dire, en cumulant mes expériences en télémarketing, après, voilà, je suis partie dans différentes entreprises pour les missions de prospection en France et en Allemagne. J'ai fait différentes sociétés en tant que responsable d'équipe et formatrice en télémarketing, dans tous les métiers du téléphone.
Donc, tu as évolué au sein de
plusieurs entreprises, voilà, responsable d'équipe, formatrice, superviseur, responsable de plateau. Et pour créer, il y a 5 ans, du coup, ma structure en tant qu'indépendante.
Donc, tu es seule ou tu gères d'autres personnes ?
Je suis seule. Donc, j'organise, on va dire, les opérations comme un pulse dans mon agenda.
Mm-hmm.
En cas de, on va dire, de pic d'activité au même moment, j'ai des collaboratrices qui viennent renforcer justement mes opérations, mais je suis seule.
Et ce sont que des collègues qui viennent te en renfort ou il y a des hommes aussi?
Il y a les deux. Effectivement, dans le métier du phoning, c'est plus féminin, certes, mais j'ai quelques équipes masculines.
Donc en fait, c'est plus féminin, pourquoi? Parce qu'on aime entendre des femmes au téléphone ou
Alors, tout dépend du produit ou du service. C'est vrai qu'au téléphone, on a plus souvent affaire, effectivement, je parle de mon côté, en tant que voilà, de personne à plante. C'est plus souvent des femmes qui appellent. Mais il y a quand même aussi, heureusement,
des hommes,
des conseillers téléphoniques ou des prospecteurs, télévendeurs. Et ça peut parfois... Alors, le fait d'être une femme va être plus facile auprès des cibles masculines.
Oui,
forcément. mais d'un autre côté, pour des produits vraiment techniques, le fait d'être un homme, ça peut aussi enlever des freins.
Des trucs purement techniques, les gens préfèrent que ce soit des hommes.
Parfois, oui, c'est vrai que c'est plus
facile. Pourtant, ça ne veut pas dire que...
Non, ça ne veut rien dire.
Ça veut rien dire.
J'ai fait tellement de produits techniques depuis le début que...
Donc, c'est vraiment une mentalité...
Tout à fait.
Ok.
Ah, oui.
Et pourquoi devenir ton propre patron?
Pourquoi? Je l'avais en tête depuis longtemps. Je m'étais dit, on verra à mes 40 ans, j'ai envie d'être consultante. Et puis finalement, ça s'est présenté avant mes 40 ans. J'ai eu l'opportunité. Et puis, en 2 mois, après avoir quitté mon dernier employeur, j'étais lancée. J'avais créé ma structure.
Tu ne te sentais pas être dirigée, en fait?
C'est pas tellement de diriger, c'est que après, quand on passe des entretiens et qu'on s'entend dire « Madame, vous êtes trop qualifiée ou trop expérimentée », en clair, on va coûter trop cher. finalement, je le fais pour moi. Je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me lève. Je pense que je reviendrai de toute façon jamais salariée, puisque effectivement, l'agenda, on gère comme on veut, même si je fais 60 heures par semaine, hein, c'est sûr.
Oui, bah...
Mais voilà, on sait pourquoi on le fait et on le fait pas pour quelqu'un d'autre.
Pourtant, on dit que les femmes sont moins qualifiées que les hommes.
Ça dépend dans quel métier.
Ouais.
Je pense qu'en l'occurrence, on va dire, mon autre casquette déléguée à la protection des données, on est déjà très très peu, donc on ne peut pas dire que les femmes sont moins qualifiées.
Oui, non, mais on dit souvent que les femmes sont moins qualifiées ou alors. Enfin,
ça aussi, c'est peut être des préjugés parfois.
Ou moins bien payées, ça, c'est pas un préjugé, c'est une réalité.
Tout à fait.
Et donc, tes motivations, c'était donc ton indépendance, en fait. C'était vraiment prendre ton indépendance.
Complètement.
Ça a été difficile par rapport à ton entourage, je veux dire, elle va créer sa propre société, par rapport à tes amis, enfin, tu vois, ou même professionnellement. Est-ce que tu as ressenti vis-à-vis des hommes patrons, on va dire, une réticence à ce que ce soit une femme qui fasse le boulot?
En fait, au démarrage, ça s'est fait très vite parce que j'avais déjà des amis chefs d'entreprise dans mon entourage qui voulaient collaborer avec moi, en l'occurrence des hommes. Donc,
ils
m'ont fait confiance. Dans mon entourage, mon papa était déjà à son compte depuis longtemps. Donc, finalement, ça me faisait peut-être pas peur. Et j'ai pas réfléchi pendant 5 ans à me dire qu'est-ce que je dois faire, etc. J'ai foncé et je me suis pas posé 1000 questions. Et j'ai été accompagnée par la BGE que je conseille à tous les créateurs et ça s'est fait vraiment
facilement. Oui, en fait, faut pas créer sa société tout seul.
Je pense que tout seul c'est difficile, on peut pas tout connaître, même si on a plusieurs compétences, on peut pas tout savoir.
Et puis on peut être vite démotivé.
Aussi, tout à fait.
Mais donc du coup, t'as pas de personnes qui t'ont dit non, le fais pas, tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour une femme.
Non, c'est vrai que j'ai eu cette chance, voilà, d'être entourée par des personnes qui ont compris pourquoi je le faisais. Même si aujourd'hui, même dans ma famille, je pense qu'ils doivent expliquer mon métier, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, non, je regrette pas et je retournerai pas en arrière.
Bah, ton métier est beaucoup plus technique, comme tu disais. Parce que si tu dis « je suis coiffeuse et mon propre salon », les gens comprendraient tout de suite.
Ouais. Mais c'est vrai que j'ai une petite valeur ajoutée, donc forcément, voilà, on s'en sert.
Donc en fait, ça n'a pas du tout été difficile en fait, pour toi.
Le plus difficile, en clair, au début, pour moi, c'était les démarches administratives, parce que je suis pas du tout administrative, mais...
Ça, en même temps, tu me diras, on est en France, hein.
C'est ça, vive l'administration française. Mais après, non, une fois qu'on est, qu'on est lancé, qu'on a les clients, que les clients arrivent, parce que je touche du bois, mais pour moi, je prospecte pas beaucoup, j'ai pas eu plus de difficultés.
Vous êtes pas beaucoup dans ton domaine, donc je pense que c'est une force, déjà. Parce que je pense que celle qui va ouvrir un salon de coiffure, par exemple,
c'est pas la même
ou
chose.
Un salon de beauté, ça va pas être pareil, quoi.
Tout à fait.
Ça va être vraiment celle qui va y aller et se donner la niaque pour y arriver. Ouais. Bah, on va passer une petite musique. Angel.
Oui, alors je vais vous passer Ottawan, donc le titre disco sorti en 1980.
Bah, on écoute ça. Après cette petite musique, un petit peu disco,
oui,
qui chauffe un peu le cœur, malgré la pluie, parce qu'on est parti quand même pour pas mal, une semaine j'ai vu,
ouais,
de pluie.
Non,
ça
non.
Va être gai. Mmh. Bah, faut bien arroser les belles plantes, hein. Faut bien nous arroser pour qu'on pousse. Donc on va reprendre donc, sur le sujet de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse ou la start-upeuse. On va apprendre plein de noms. Alors, tu as intégré un groupe.
Oui.
Qui s'appelle Femmes d'Action.
Tout à fait.
Mmh. Enfin, j'y suis aussi. C'est pas pour ça qu'elle est à la radio, hein, je vous rappelle. Donc, parle-moi de ce groupe. C'est un groupe qui de femmes.
C'est ça, effectivement, un groupe de femmes, chefs d'entreprise, qui a été créé en 2016.
Mm-hmm.
À l'époque, ça s'appelait autrement. Ça s'appelait Résoé. Et on avait démarré. J'étais à la toute première, rencontre dans un restaurant sur l'île. À la table du boucher, pour pas le nommer. On était une dizaine et aujourd'hui, on est... Alors, combien au total ?
Au mieux 26 quand on se réunit.
Quand on est... Oui, tout le monde vient pas en même temps, mais on doit être une cinquantaine quand même dans le groupe quand on cumule toutes les personnes qui agissent, entre guillemets. Quand on arrive à être nombreuses en même temps à la rencontre, oui, on doit être entre 20 et 30, tout à fait. Et c'est que des femmes chefs d'entreprise.
Et le but premier de ce groupe, c'était
Le groupe premier, c'était de montrer que les chefs d'entreprise n'étaient pas que des hommes.
Mmh. Déjà.
De pouvoir partager, conseiller, échanger entre nous. Puisque on peut pas parler de la même façon avec des hommes qu'avec des femmes, forcément.
Ça, c'est clair.
Et puis, de fil en aiguille, effectivement, quand une telle a besoin de telle ou telle prestation, on connaît l'une ou l'autre qui peut l'aider. Et du coup, il y a beaucoup de mises en relation qui se font comme ça.
On fait du réseautage.
Tout à fait.
Voilà.
Et du business.
Et donc, du coup, quand c'est passé à Femmes d'Action, ça a été dans la même lignée ?
Oui. Oui, complètement.
C'est toujours resté pareil. Il y a juste le nom qui a changé.
C'est ça. Oui.
Toujours. Et donc, on se regroupe.
Une fois par mois.
On se regroupe.
Oui, c'est ça.
Parce que j'y suis aussi. Donc, une fois par mois.
Oui.
Et donc, les rendez-vous, les se tournent autour de quoi exactement?
Au départ, c'est un déjeuner, hein, vient qui veut, effectivement, il n'y a pas de contrainte, c'est une fois par mois. La première étape, entre guillemets, c'est de se présenter chacune notre tour pour qu'on connaisse tout le monde, évidemment. Et puis après, si on doit recommander l'une ou l'autre, au moins on sait qui fait quoi. Et puis après, c'est un moment convivial de partage, d'échange, tout simplement.
Mais pourquoi intégrer un groupe en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur ? Je vais les répéter toujours, en tant que patronne, voilà, que ça sera plus simple.
Pourquoi ? Moi, j'ai toujours eu, comme je devais être prof, hein, effectivement, j'ai toujours eu cet instinct de partage, de pédagogie, de données, etc. Et je pense que quand on fait partie d'un groupe ou d'un club, c'est ça, on a les mêmes valeurs, on partage des choses, on échange sur des questions, des conseils, quels que soient les besoins de chacun finalement et de chacune. Et je pense que en intégrant un groupe, là en l'occurrence Femmes d'Action qui est un groupe uniquement de femmes chefs d'entreprise, on peut avoir les mêmes expériences, le même vécu ou parfois pas, et du coup on demande conseil à ces consoeurs.
Et c'est un groupe, c'est un réel soutien pour justement ces femmes entrepreneurs.
Oui, bien sûr. Et puis surtout qu'il y en a qui sont vraiment toutes seules dans leur activité et du coup ça permet aussi de rompre avec la solitude.
Donc il faudrait peut-être mettre deux repas dans l'eau, pas un.
Oui, effectivement, c'est vrai. Et le temps passe tellement vite.
Et c'est ça. Et donc du coup dans ce groupe, les hommes sont autorisés ou pas du tout ?
Eh ben, j'en ai jamais vu. Mais pourquoi pas?
Et pourquoi pas que non? On sait jamais.
Bien sûr.
Parce que du coup, la plupart du temps, les autres groupes sont plutôt mixtes.
En général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui sont mixtes, de clubs qui sont mixtes, même des clubs qui s'appellent femmes quelque chose où on accepte les hommes. Donc pourquoi pas Femmes d'Action également, bien sûr.
Oui, parce qu'en fait, on remarque que dans la société à l'heure actuelle, si tu veux faire quelque chose purement féminin, tu n'as pas le droit.
C'est difficile, oui.
Par contre, si les hommes font des trucs purement que mecs, on leur dit rien.
Ça passe.
Voilà. Donc, je trouve ça un peu aberrant, en fait, au jour d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, tu peux pas te dire, nous, c'est interdit aux hommes. Et pourquoi ça serait pas interdit aux hommes ?
Exactement. Bien sûr, oui, non, ça reste ouvert.
Parce que nous, ils nous interdisent pas plein de trucs. Regarde, les Iraniennes, elles peuvent pas aller au foot.
Ouais.
Alors, et c'est même ça, tu vois, même les matchs de foot, t'as et les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Pourquoi est-ce que t'as pas une équipe.
Mixte.
Ça serait quand même plus logique.
Ça serait rigolo même.
Ouais, je pense, ouais. Surtout que les femmes se jettent moins à terre que les hommes.
Ouais.
Enfin, un peu moins leur chouchoute, les filles. Donc revenons à nos moutons, parce que sinon on va nous dire qu'on fait du sexisme.
Donc à nos moutons.
Ouais, à nos moutons. Avec la pluie, c'est, il pleut, on sait jamais. Donc du coup, oui, du coup en fait, pour l'instant, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas eu discussion de dire qu'on acceptait les hommes.
Non. Ça s'est pas présenté, effectivement.
Non, on a eu des hommes serveurs qui nous servaient, mais il n'y a pas eu d'hommes, machin. Ouais. Et en fait, au sein de ce groupe, est-ce que, enfin, comment se déroule l'adhésion? Est-ce qu'il y a une adhésion? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que le groupe propose autre chose? Des stages, des rencontres, chacun vient se parler de son travail. Plus précisément, je parle, hein, pas juste brièvement en cinq minutes, comme bien c'est fait lors des repas, de repas réunion. Non, repas d'affaires, on va dire.
Oui. Alors, dans ce groupe, il n'y a aucune cotisation, aucune adhésion. Donc ça, déjà, c'est un grand avantage. Il n'y a pas de contrainte. C'est effectivement une rencontre par mois, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Et comment ça se passe? Qui veut ensuite, à la suite du repas, prendre un rendez-vous pour rencontrer l'une ou l'autre? Effectivement, c'est tant mieux. Ce qu'on peut aussi proposer, c'est de faire des salons, des ateliers, pourquoi pas. Du coup, on a effectivement fait notre premier salon en juin dernier.
Il y a plein de choses. Les femmes savent faire plein de choses quand même.
Oh oui.
Tu vois. Donc en fait, du coup, on a juste à venir aux réunions.
C'est ça.
Se présenter.
Oui.
Et puis s'entraider.
C'est ça. Puisque avoir les mêmes valeurs. Et puis voilà.
De connaître le groupe aussi. Parce que je pense que si on veut rechercher un métier bien spécifique. Qui est aussi sur Facebook.
Bien sûr.
Donc aussi, on peut interchanger comme ça.
Parfait.
Donc le groupe existe depuis 2016, si je me trompe pas.
Oui.
Et depuis qu'il a changé, Femmes d'Action, il y a un réel renouveau. Est-ce qu'il y a eu plus d'adhérentes? Parce que le groupe s'est ouvert à un moment donné.
Effectivement.
Parce qu'il était plus fermé.
Il démarrait en 2016. Aujourd'hui, forcément, on a beaucoup plus de personnes qui sont dans le groupe.
Parce qu'avant, avec Rézoé, on devait payer une cotisation.
C'était pas obligatoire. Effectivement, on pouvait effectivement payer une cotisation sur la plateforme Rézoé qui donnait accès à une communication dans tous les clubs Rézoé de France. Aujourd'hui, ben effectivement, ça a changé, donc on n'en est plus là. Pas de cotisation. On peut en interne déjà faire de la communication puisqu'on a des personnes au sein du groupe qui, pour qui c'est le métier. Et du coup, je pense au salon qu'on a fait qui a été mis en avant grâce à certaines personnes du groupe. Du coup, et c'est ça qui a fait que le groupe a évolué, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus d'actions.
De choses.
Et beaucoup plus de choses, tout à fait.
Et donc cette année, celles qui veulent s'inscrire, comment font-elles?
Alors, comment font-elles? Soit elles nous contactent si elles ont vu une publication sur Facebook, soit elles nous contactent toi ou moi, par exemple,
aussi,
en direct. Ou si elles connaissent d'autres personnes qui font partie de Femmes d'Action. C'est tout simple, on les invite à la prochaine rencontre.
Donc, c'est principalement sur Facebook, on tape Femmes d'Action et on tombe sur le groupe.
Oui.
Ou alors, il y avait un site. Je ne sais pas s'il avait été...
Alors ça, je ne sais pas s'il est opérationnel ou s'il est encore en cours.
Bonne question.
Bonne question, effectivement.
Mais principalement pas... En fait, passe principalement sur Facebook, LinkedIn,
on est plus sur Facebook, effectivement.
Plus sur Facebook. Et du coup, les filles, enfin les femmes... entrepreneurs, eux, peuvent mettre leur pub sur le groupe, du coup, leur
tout
pub de leur société, les événements.
Exactement.
Et tout ce qui s'ensuit.
C'est ça. Elles peuvent effectivement partager, publier, communiquer leurs actions, même si elles ne viennent pas à chaque rencontre mensuelle.
Ouais, il n'y a pas d'obligation.
Non. C'est vraiment un groupe libre.
Extra libre.
C'est ça.
Ouais. Et donc, du coup, parce que je sais que tu fais partie d'autres groupes, mais du coup, c'est quoi cette différence avec ce groupe-là? C'est vraiment cette liberté?
C'est la liberté, c'est le format qui n'est pas le même, c'est la convivialité, c'est se retrouver, effectivement aussi pour celles que, bah, qu'on ne voit pas forcément tout le temps, c'est tellement de choses. ça se complète avec d'autres clubs, en fait.
Hein. Ouais, donc du coup, en fait, tu peux faire partie de ce groupe-là. Mm-hmm. Et d'autres groupes aussi.
Bien sûr.
De toute façon, tu ne vois pas toujours les mêmes personnes dans tous les groupes.
Ben non, bien sûr.
Ouais, parce que ce serait un peu dommage si tu rencontrais toujours les mêmes.
C'est clair.
Voilà.
Là, il n'y aurait pas d'intérêt, c'est
vrai. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et donc, le groupe en lui-même, est-ce qu'il a rencontré des difficultés d'adhésion, de percer dans ce monde, on va dire...
Je pense que la seule difficulté, ça a été peut-être effectivement au départ de changer le nom, parce que étant donné qu'il n'y a pas de cotisation, forcément c'est pas difficile de l'intégrer. On a au sein du groupe quelques personnes qui sont vraiment très très actives aussi à longueur de temps, qui font connaître aussi le groupe, et de ce fait-là, qui veut peut venir d'une part déjà en tant qu'invité pour découvrir comment ça se passe, et puis après voilà, elle continue pas l'aventure.
Et il se situe où? Est-ce que c'est un rayonnage de tout le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce que les femmes de partout peuvent venir? Est-ce que c'est plus un rayonnement plus l'île métropole?
Pour le moment, effectivement, c'est l'île métropole. Après, pourquoi pas l'élargir et en créer d'autres similaires sur Arras, Lens, Béthune, Douai, où il y aurait d'autres intérêts.
Et donc, du coup, les réunions repas d'affaires se passent principalement l'île métropole?
Pour le moment, oui.
D'accord. Et le dernier a eu lieu
début septembre pour la rentrée sur l'île.
Sur l'île. Et t'as une petite anecdote que j'ai trouvé marrante. T'avais rencontré quelqu'un?
Ah, effectivement. Et justement, oui, c'est vrai que lors de
pour
notre dernière...
Pour le coup, c'est un homme.
Ouais. La dernière rencontre qu'on a faite au restaurant sur l'île, dernière notre table, on a rencontré Cadmerad.
Comme quoi?
Mais oui.
On peut faire de belles rencontres.
Hein. Oui,
mais du coup, dans ce... Il y a quel genre de métier? Ou d'entreprise? Ou est-ce que c'est principalement, ma question avant, est-ce que c'est principalement que des micro-entreprises, ou est-ce qu'il y a des femmes avec des entreprises au sein du groupe?
Il n'y a pas que des micro-entreprises, puisqu'en l'occurrence, il y en a qui ont des agences d'assurance, par exemple, des agences de location de voitures. Après, effectivement, il n'y a pas de non-concurrence, donc il peut y avoir plusieurs personnes qui font la même activité, puisque nous, on dit qu'il y a du soleil pour tout le monde.
Oui, ça, c'est un point fort aussi, je pense.
C'est vrai.
En fait, parce que dans certains groupes, tu es dans il peut pas y avoir de concurrence.
Tout à fait, ouais. Tandis
que là,
c'est possible. Il peut y avoir plusieurs personnes qui font de la communication, plusieurs personnes qui font de l'investissement immobilier ou des choses comme ça. Parce qu'on part du principe que c'est vrai que parfois, elles peuvent être complémentaires.
Puis elles ont je pense que les gens ont une spécialité.
Tout à fait.
Que d'autres parfois n'ont
c'est
pas
ça.
Et vice-versa.
Exactement.
Donc on est vraiment dans un groupe en fait, qui s'entraide.
Oui.
Et qui ne prend pas en fait ce côté où elle va me porter préjudice parce qu'elle fait la même chose que
c'est
moi
ça.
Ou vice versa.
Ouais, exactement.
Et du coup, ma question, ça avait été est-ce que c'est un groupe est-ce que vous parlez des problèmes des unes des autres? Oui.
Oui, forcément.
Ouais. Mmh. Et j'arrive pas à trouver mon mot.
Ça va venir.
Ouais, ça va venir. J'avais un mot en tête qui est parti. Donc c'est pas grave. Mais j'avais dit un truc avant, mais je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit avant. Je voulais reprendre ce que j'avais dit juste avant de repartir justement sur ces micro-entreprises. Mais voilà. Et voilà. C'est quand on parle trop de choses en même temps.
C'est pas grave, ça va revenir.
Donc, du coup, c'est pour reprendre. Ça va peut-être me revenir à force.
Oui.
Hein. Donc, quand vous faites ces repas d'affaires, donc c'est une fois par mois,
c'est ça,
dans un restaurant lillois, non lillois, de l'île métropole. Mm-hmm. On fait des rencontres parfois très bien.
C'est ça, surprenantes.
Est-ce que donc il n'y a pas de cotisation, il y a juste du coup son repas à payer.
Tout à fait.
Est-ce que chacune peut apporter son idée de création, par exemple d'événement, ou alors d'idées. En fait, il n'y a pas, on va dire, un chef de file.
Non.
Il y a quelqu'un qui gère, mais il n'y a pas.
Voilà. Il y a plusieurs organisatrices, certes, mais effectivement, chacun amène ses idées, ses propositions. Il peut y avoir plein de choses, effectivement, qui peuvent être mises en place.
Ça, c'est cool. Hein.
Oui.
Et si pareil, et même les femmes qui ne sont pas entre. Enfin, qui sont étudiantes, par exemple, peut-être, ou qui ont des projets, on n'est pas dans l'obligation d'avoir déjà sa société ou sa micro-entreprise.
Femmes d'action.
Voilà.
Voilà.
Ça veut tout dire.
C'est ça.
Exactement. Du coup, pour en revenir, il y a eu un salon.
Oui.
Qui s'est créé le 18 juin.
C'est ça. Le salon Femmes d'Action.
Ouais. Mm-hmm. Qui a été décidé justement par Femmes d'Action.
C'est ça.
Okay. Qui s'est déroulé où?
Alors, ça s'est déroulé au Better Primeur de Villeneuve-d'Ascq. Mm-hmm. On était 22 ou 25 participantes en tant qu'exposantes. Et de mémoire, on a dû avoir 200 visiteurs.
Ce qui est pas mal pour un premier salon.
Bah oui.
Parce que la communication a été
relayée
partout, par les 25.
Ouais.
Déjà.
Oui. Chacune dans son réseau, forcément.
Ouais, voilà. Et c'était un projet qui était... voulu par toutes ou qui a été porté par une qui...
Je pense que ça a été un peu commun puisque c'est forcément aussi l'intérêt de chacune. Hein. Donc quand l'idée a été lancée, ça s'est vite mis en place.
Ouais. Oui, ça s'est vite mis en place.
Bah, quand on veut, on peut. Hein. Les femmes d'action, c'est ça.
Comme quoi, il y a eu quand même 200 personnes.
En plus, oui.
En plus. Donc c'est que le réseau
a bien fonctionné.
Ouais. Parce que ça avait été relayé par toutes, LinkedIn,
sur tous les réseaux,
Facebook,
bien sûr, ouais. Les invitations par mail.
Il y a eu une affiche de fête. Il y a eu des petits flyers de fées. Enfin, ça a été vraiment. Et toutes, en fait, ont mis la main à la pâte.
Exactement, oui, parce que chacune qui avait les compétences, effectivement, dans le groupe, ont participé.
Et donc, ça s'est fait au Butter, où c'était un endroit convivial, où il y a eu un bon accueil. Tout le monde a pu aller visiter et voir les divers métiers.
C'est ça.
Parce qu'il y en a beaucoup.
Oh oui.
Oui.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça serait bien que dans la deuxième partie, on parle justement d'un peu toutes ces nanas, on va dire, qui ont divers métiers variés, puisqu'il y a des femmes qui ont quand même des métiers plus d'hommes.
Oui, c'est vrai, mais bon.
Comme toi.
Oui. C'est sûr. Quand c'est un peu technique, oui.
Un petit peu, ouais. Bah, c'est sûr que... quand tu penses, en fait, quand tu penses de façon, on va dire, dans la tête d'un homme ou ou les gens d'une autre génération, c'est vrai que généralement, tu entends souvent, t'es sage-femme. Pour une femme, c'est normal. Tu vois, t'es coiffeuse, limite, c'est normal. T'es caissière, limite, c'est normal aussi. D'ailleurs, tu vois beaucoup plus de caissières que de caissiers. Par contre, si tu prends d'autres métiers comme le tien ou agent de sécurité, si on te dit que c'est une femme, on va nous regarder en disant « c'est pas possible, elle n'est pas assez forte », alors que rien à voir.
Chauffeur poids lourd.
Aussi, chauffeur poids lourd.
Mécanicienne,
tu vois. Donc c'est tout des trucs où... C'est pour ça que ce serait intéressant peut-être en deuxième partie de...
C'est vrai.
Tu vois, de parler parce que c'est vraiment... C'est encore aberrant au jour d'aujourd'hui qu'on catégorise un peu trop...
Oh oui.
La femme dans
de tabous,
des On va revenir tout de suite après cette petite page de publicité. Oui ? Non ? Angèle me parle ? Je ne sais pas. Angèle me parle.